Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine dans Évasion Romanesque avec un livre chargé d'émotions. Il s'agit des mémoires de Christian Desceaux, recueillies et transcrites par William Fourteau. Né en 1925, il est élevé dans l'amour de la patrie et le devoir de la servir par un père qui est revenu décoré de la Grande Guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il n'a que 14 ans. Mais déjà, son caractère est forgé et sans répit, ils trouvent des solutions pour embêter l'occupant. Ils volent leurs vélos, leurs uniformes, parfois leurs armes. Rien de très méchant, mais des actes qui peuvent lui coûter cher s'il est pris. Son avenir est tracé. Il devient résistant. Et c'est cette vie qui est retracée ici, dans Dora, le tunnel de la mort. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ce camp allemand où les déportés travaillaient en secret à la fabrication des fameux V1 et V2. Moi non plus avant ce livre. Auschwitz, Buchenwald, oui. Mais Dora... Avant d'arriver dans ce camp où il est dit qu'on ne ressort pas vivant, Christian nous décrit ses actes de résistance au sein des Bleuets à Compiègne sous les ordres d'Alain Ponce. Sa délation, la Gestapo qui débarque chez son père et l'emmène en prison, les coups pour le faire avouer tout et n'importe quoi, les tortures. Puis arrive la déportation pour Buchenwald. Le voyage interminable dans des wagons à matériaux où les hommes entassés n'ont ni à manger, ni à boire, ni air pour respirer. Ils seront nombreux déjà à succomber pendant le transport. Mais si Christian pensait vivre l'enfer, il se trompait. Le train ralentit. La vapeur se décompose d'un seul jet, comme si la locomotive poussait un ouf de soulagement. C'est la fin du voyage. Ceux qui survivent n'ont pas le temps de se demander dans quel lieu maudit les a emmenés ce train de l'enfer. À nouveau, c'est la bagarre pour accéder aux espaces d'air pendant de longues minutes qui précèdent l'ouverture du wagon. Le wagon s'ouvre enfin. Nullement apitoyés, on dirait au contraire que les SS sont excités par la misère qu'ils découvrent. Ils se mettent à cogner dans le tas avec des gourdins, comme si l'hécatombe ne leur suffisait pas. 30 morts gisent dans les souillures. Quelques-uns ont perdu conscience ou n'ont plus la force de se lever. Ils sont achevés d'une balle dans la tête. Le même sort attend certains dont la température s'est abaissée au-dessous de 30 degrés et qui sont de toute façon perdus. Sur le quai, d'étranges hommes en tenue rayée s'agitent autour des chariots qu'ils ont amenés avec eux pour charger les cadavres. Alors commence le bilan du désastre. 400 morts, 1580 survivants, 19 évasions. C'est pas beaucoup. L'Obersturmführer va pouvoir être félicité. S'ensuit la dépersonnalisation avec la tonte de tous les poils, les matricules assignées, le travail forcé, le manque de nourriture, d'eau, de sommeil, les poux, la dysenterie, la fièvre. Christian et son ami Camus le savent, ils doivent quitter les lieux. Et puisque les Allemands cherchent des spécialistes, ils seront spécialistes et recrutés pour un nouveau camp, celui de Dora. Mais ça, les deux hommes ne le savent pas encore. Ils le découvriront à l'entrée du fameux tunnel de la mort. Christian arrive à Dora le 20 février 1944. Il passe 3 mois à creuser, soulever, pousser, tirer, porter. L'usine est achevée en mai. Il est appelé comme spécialiste pour ajuster les pièces de la fusée. Son Meister, autrement dit son contremaître, est un civil allemand nommé Heinrich, originaire de la Rhénanie. Un ancien de la guerre de 14, blessé à Verdun, puis prisonnier des Français dont il a gardé un bon souvenir. Il a été bien traité. Réformé en 1939, il n'est pas parti au front. Il est inscrit au parti, sans cela il n'aurait pas de travail. Mais il n'a pas l'âme d'un nazi. Il se prend d'amitié pour Christian. Grâce à lui, ce dernier arrive à trouver, du moins pendant la journée, des espaces de liberté qu'il met à profit pour prendre des notes qu'il cache dans la doublure de ses habits rayés. Puis, il y a les coups. Sans arrêt, on nous tape dessus, on prend des coups à droite, à gauche. Il meurt 400 à 500 hommes par jour. Mais ça ne fait rien. Ils sont automatiquement remplacés par les nouveaux arrivants. Pendant 3 mois, on va connaître un enfer dingue. Rien à bouffer, rien à boire, dormir à l'intérieur du tunnel... L'atmosphère qui brûle les poumons, les hurlements, les cris, les agonisants, le bruit, les explosifs qui pètent, les locomotives qui passent, les wagons qui déraillent, les outils, les marteaux-piqueurs, c'est une folie. Christian va en réchapper de cette folie, mais pas avant la libération. La contre-offensive des Ardennes n'a été qu'un baroud d'honneur. Janvier 45, un dispositif d'attaque qui va de la Hollande à la frontière suisse et qui comprend 7 armées alliées, dont l'une, la première armée française du général de Lattre de Tassigny, est déployée à l'extrême sud, est prête pour envahir l'Allemagne. Face à ce dispositif aussi, face à l'armée rouge qui commence à déferler sur la Pologne et sur la Prusse orientale, l'Allemagne oppose encore 217 divisions. Mais dans le délire qui précède sa dislocation, Le régime a mobilisé les vieillards et les enfants. Le Reich s'effondre dans le chaos des bombardements, l'exode des populations civiles, les chefs qui prennent la fuite, qui se donnent la mort ou sont faits prisonniers. Février, la conférence de Yalta, le partage de l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Bien que libérée par les Américains, Dora se retrouve comme par hasard en zone soviétique. Une explication simple. Staline et Roosevelt, qui n'a plus que 2 mois à vivre, se sont partagés le fromage. Les données stratégiques et géographiques font telles que les Américains arriveront les premiers à Nordhausen et dans le Harz. Qu'à cela ne tienne, ils s'empareront d'une gamme complète de V2 qu'ils emmèneront aux États-Unis, ainsi que les archives et les plans de fabrication de la fusée. Ils mettront également la main sur Von Braun. Mais ils laisseront l'usine et le personnel en place en attendant l'arrivée des Soviétiques le 1er juillet. Parmi le personnel, à qui un émissaire russe arrivé dès le 26 mai a promis monts et merveilles, il y a le bras droit de Von Braun, l'ingénieur Gottrup, l'élève qui va bientôt dépasser le maître, coiffant les Américains sur le poteau en 1957 et en 1961 avec Gagarine. Parce que oui, si nous n'avions jamais entendu parler de ce camp de Dora, c'est qu'il y avait une bonne raison. Sans les accords passés entre les Américains et Werner von Braun, celui qui était à la tête de ce lieu immonde, jamais Armstrong n'aurait posé les pieds sur la Lune en juillet 69.
L'actu des bibliothèques.
Pour la Saint-Patrick, ce dimanche 17 mars, la bibliothèque de la commune des Adrets fête le court-métrage et vous convie gratuitement et à tout moment à partir de 15h30 à la Marmite pour découvrir une multitude de films courts pour tous les goûts.